Attention, vous écoutez un programme audioactif.
Je me suis écrasé sur une étrange planète.
Pardon monsieur, excusez ma curiosité, vous seriez-il pas ensemble des fois?
Car vous êtes enfin dans l'antichambre de la gloire et de la célébrité.
Vous avez entendu? La clairvoyance, l'intuition, il est bien de chez nous.
Salut, c'est Merglin et bienvenue dans Planet of the Tapes, le podcast qui parle de cinéma à travers ses supports vidéo physiques. 2023 a démarré et il est temps d'annoncer le changement dans la continuité. Le changement a commencé fin d'année dernière avec la Minute Branque. Mais si vous voyez, vous savez le petit programme court qui fait que la vignette de Planet of the Tapes pop quasi quotidiennement dans votre application podcast. Bon, ça peut énerver, mais c'est pas le sujet. Toujours est-il que Nostalgeek et Le Corbeau ont bien voulu rester et on va faire perdurer la chose aussi longtemps qu'on pourra ou voudra. Et vous êtes quand même nombreux à les suivre. De mon côté, je garde le rythme et je vais m'échiner à inviter des invités aussi divers que possible, des nouveaux et quelques comebacks. Et puis je souhaite plus de voix féminines. Mesdames, mesdemoiselles, si vous avez envie de vous essayer au podcast, ou si vous en faites un déjà, de parler de Cinoche, DVD, Blu-ray, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message et on rigolera dans la bienséance et la taquinerie. Et pour augurer de tout ceci, j'ai la chance de recevoir une personne du beau sexe qui a fait une apparition furtive lors d'un épisode précédent. C'était lors du jugement dernier sur Commando, où elle officie en tant que greffière impromptue. Elle avait bénéficié du titre de maîtresse pour la peine. Salut Sixties, comment ça va?
Salut Merglin, ça va et toi?
Ça va très très bien. L'année a commencé, je ne suis plus malade, j'ai passé des fêtes sous Doliprane, mais c'est pas grave, ça a été. Et de votre côté?
Eh ben écoute, moi je suis encore sous Doliprane, donc je crois que c'est l'épidémie de fin d'année, c'est comme ça, voilà, Doliprane en ce début d'année.
Bon, c'est pas grave.
On se soigne.
On va quand même parler d'un film que tu as suggéré, que je n'avais pas vu,
oui,
que j'ai rattrapé pour l'occasion. Et donc, c'est encore tout frais pour moi. Puis, on va faire, comme d'habitude, les bandes annonces. Donc, les dernières choses qu'on a vues en DVD, Blu-ray et compagnie. Ce qui n'est pas sur la rondelle, un film qui est sur une plateforme. Et puis, on se fera un petit bisou et puis on ira au dodo tranquillement.
Ça roule. Ça te va? Parfait.
Nickel. Allez, je mets la galette dans les lecteurs. C'est parti.
Avant tout, ce que nous attendons de vous, Monsieur Barish, c'est que vous rentriez chez vous et que vous rassembliez tout ce que vous possédez qui peut avoir un rapport avec Clémentine. Absolument tout. Nous nous servirons de ces objets pour dresser une carte des souvenirs de Clémentine dans votre cerveau. D'accord? Nous aurons besoin de photos, de vêtements, de cadeaux, de livres qu'elle aurait pu vous offrir, de CD que vous auriez acheté ensemble, d'articles de journaux. Nous allons débarrasser votre maison, débarrasser votre vie de Clémentine. Et une fois que la carte sera établie, nos techniciens procéderont à l'effacement chez vous ce soir. Comme ça, demain matin, vous vous réveillerez dans votre lit, comme si rien ne s'était passé, avec une nouvelle vie qui vous attend.
Aujourd'hui, on va parler de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un film de 2004 réalisé par Michel Gondry. Et c'est toi, Sixties, qui a voulu qu'on en parle.
Yes.
Tu adores ce film.
J'adore ce film. En fait, il y a tout dans ce film. Il y a de l'amour, bien sûr.
Il y en a plein.
Voilà, il y a que de l'amour et il y a une certaine réalité. Un certain réalisme, au final. Et comment dire, et avec une approche tout à fait, on va dire, à la patte Gondry. On reconnaît sa patte. Pour le connaître, c'est un artiste, c'est quelqu'un de, avec un génie, je trouve. Il a l'art de raconter les choses dans une poésie, de façon très théâtrale, avec des acteurs, Jim Carrey, Kate Winslet.
Oui, il y a beaucoup de monde.
Il y a énormément de... Il y a un bon casting, comme on dit. Kirsten Dunst. Il y a tellement de choses à dire sur ce film.
On va s'y attaquer. On va faire étape par étape. Le pitch, tu le fais ou je le fais ?
Vas-y.
Je vais faire un pitch court. En fait, c'est l'histoire de Joël et Clémentine qui ont vécu une belle histoire d'amour. Mais qui, comme beaucoup d'histoires d'amour, s'use, s'effiloche et se termine. Et dans la douleur. Et pour ne pas souffrir, Clémentine fait appel à une société qui s'appelle Lacuna, qui va effacer de sa mémoire son amoureux Joël, donc joué par Jim Carrey. Et lui va faire de même. Et au milieu du processus, il va finalement changer d'avis, essayer de lutter contre l'oubli.
Oui.
Ça te va ?
C'est ça. Parfait.
Moi, j'ai plein de références différentes sur l'idée du scénar. Est-ce que t'en as à toi ?
Des références...
Comme quoi ça aurait été inspiré, entre autres, par deux romans de Boris Vian.
Alors, ce...
En partie.
Ouais. Alors, ouais, vas-y.
Ça serait inspiré de L'Herbe Rouge et L'Arrache-Cœur.
D'accord.
C'est un mélange de plusieurs choses.
Ok.
C'est une idée qu'il a eue avec un ami à lui qui est artiste, qui s'appelle Pierre Bismuth.
Mm-hmm.
Et là-dessus, tu rajoutes la patte de Charlie Kaufman, oui. Qui est... dire le scénariste avec qui Gondry a déjà fait plusieurs films, notamment Soyez sympa, Rembobiné, et un autre, mais que j'ai plus.
C'est pas La science des rêves aussi, peut-être ?
Ouais, exactement. La science des rêves, et qui est aussi réalisateur de son côté, c'est Dans la peau de John Malkovich, normalement.
D'accord.
Voilà.
Donc je n'avais pas les références, ouais.
De Boris Vian. Ouais, c'est des petites références en plus. Alors, Michel Gondry, réalisateur français qui a démarré dans le clip.
Exactement.
Qui a fait un carton aux États-Unis. Ça avait démarré avec...
Je crois que c'était Daft Punk.
Oui, il avait commencé avec le clip de Daft Punk.
Ouais. Ouais, c'est ça. Il en a fait pas mal avec les Chemical Brothers aussi. Il en a fait pas mal, 3 ou 4.
Ouais. Il avait même démarré avec l'affaire Louis Trio. Pardon.
Ouais.
Il en a fait pour Étienne Dao, pour... oh là là, il y a du monde. Woolsey, Les Négresses Vertes, I Am, Je danse le clip,
tout à fait.
C'est un clip de Gondry.
Oui.
Il en a fait pour Crévy, Esbjork, Sinéad et O'Connor. Enfin, il y en a des palanquées.
Exactement. Ouais. Et on reconnaît toujours cette petite... je sais pas, il y a la patte du gars, notamment celui qui lui a, pour moi, qui a été le plus remarquable, c'est Let Forever Be des Chemical Brothers. Et en fait, ouais. T'as cet effet de multiplication de filles, effet kaléidoscope. Et en fait, il explique dans les coulisses de ce clip que il a pris chaque fille est différente. Enfin, tout est monté. Absolument, il n'y a aucun effet spécial et que tout est monté de A à Z. C'est extraordinaire, quoi. À voir, c'est incroyable.
Ouais, sa patte, c'est justement de faire le minimum de post-production possible, de rajouter le minimum au montage et que tout soit pris. En live.
Exactement.
Au maximum.
Oui.
Ces films, est-ce que tu as tout vu ? Pas tout ? Il y en a qui te manquent ?
Alors, je n'ai pas... Alors, j'ai vu La science des rêves.
Ouais.
La science des rêves, qui est un petit peu plus... on va dire, j'ai moins aimé. J'ai moins aimé, peut-être parce que c'était des acteurs français, je ne sais pas.
Ouais.
Mais c'était un peu plus carton. C'était effectivement, il allait vraiment dans le vif du sujet du, on aurait dit un film recyclé quoi. Enfin, c'était avec Charlotte Gainsbourg, je crois. Après, j'ai plus le souvenir des autres. Je l'ai vu il y a un petit moment. Donc j'avais vu celui-là.
2006.
Ouais, voilà. J'ai moins accroché, on va dire, que Eternal. J'ai également vu L'écume des jours. Donc, du coup, Boris Vian, hein, pour le coup,
complètement.
Et
Il était pas mal.
Après, je trouvais qu'il y avait un peu de redondance, hein, c'est-à-dire que peut-être aussi, on avait encore des acteurs français. Alors j'ai peut-être un problème avec ça, hein, je ne sais pas. Mais je trouvais que ça, voilà, ça marchait, mais j'ai pas été aussi fan que dans le déroulement en fait du film où on a la couleur qui est là. Après on a quelque chose de très poétique, hein, c'est évident, mais qui décline. La fin m'a un peu ennuyée. Ça m'a un peu ennuyée. Je m'attendais pas à autant de parti pris graphique. Enfin, pour moi, ça allait trop loin, quoi. Voilà.
D'accord.
Et toi, du coup, tu...
Alors moi, je suis pas un super bon élève. Enfin, j'en ai quand même vu quelques-uns. Bon, là, je viens de voir Eternal Sunshine. Mm-hmm. J'avais vu à sa sortie Soyez sympa, Rembobiné.
Oui.
L'écume des jours et The Green Hornet.
D'accord.
Dont je dirais un mot parce que c'est celui que tout le monde reproche à Gondry.
Ouais.
Mais que j'aime bien quand même. Il est très très con. Et puis je pense qu'il a dû s'amuser dessus.
Ouais.
Allez, on revient donc sur ce film. Mm-hmm. Donc moi je l'ai acheté pour l'occasion.
Ok.
Parce que tu m'as dit je veux qu'on en parle. J'ai dit ok, on va en parler. Donc je l'ai trouvé assez facilement.
Ouais.
Et puis il y a 2-3 bonus sur lesquels on reviendra aussi. Mm-hmm. Pour beaucoup, c'est un film à BO. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine. And everybody's gonna learn sometime. Alors moi je m'attendais à entendre en boucle Mr. Blue Sky.
Mm-hmm.
Je l'ai attendu pendant tout le film et je ne crois pas l'avoir entendu. À part dans la bande-annonce.
Alors, Blue Sky, alors, c'est pas celle de Beck, hein. Beck, c'est...
Mr. Blue Sky, c'est Electric Light Orchestra. Chanson qui a été réutilisée pour une pub SFR et qui a été reprise après plein de fois.
Alors, celle-là, c'est pas celle qui m'a marquée du film, du coup, parce que c'est pas forcément la BO que je préfère du film, à part celle de Beck, que je trouve absolument... Enfin, de façon instrumentale, elle est magnifique, quoi, enfin...
C'est une reprise d'un tube des Corgis qui s'appelle Everybody's Got to Learn Sometime.
Exactement, ouais.
Qui a été un énorme tube, et la reprise est super.
Elle est magnifique.
Déjà, la chanson d'original est très, originale est très bien, et non, la reprise est vraiment très très chouette.
Ouais.
Les acteurs, donc on a d'abord Jim Carrey.
Ouais.
Dans un rôle sérieux.
Exactement, c'est... Ouais. Tout à fait.
Il était dans sa période rôle sérieux, c'est-à-dire qu'il avait enchaîné... avant, il y avait eu Truman Show, mm-hmm. et puis il y aura Man on the Moon, qui vient un peu après, je crois.
Ouais.
Il avait dit à Gondry qu'il était dépressif et qu'il allait se soigner pour jouer. Et Gondry lui a dit « Non, 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 je veux que tu gardes cet état de dépressif, ça va très bien avec le personnage. »
Effectivement, il est bien blasé quand même.
Il est au bout de la roulette, le mec.
Il est dans une déprime.
Oh, il est d'une tristesse. Et ça fait bizarre de voir Jim Carrey comme ça.
Oui, c'est sûr, quand on le voit dans The Mask, bon, c'est totalement...
C'est pas Ace Ventura non plus.
Hein. Non, c'est sûr.
Mais, il est excellent, il est fabuleux.
Il est parfait, quoi. Parfait avec le contraste avec Kate Winslet, qui est complètement déjanté, justement. Il y a forcément un équilibre entre les deux. Le jeu est parfait, quoi.
Il avait comme contrainte également de ne pas improviser. Gondry lui a dit « Non, je veux pas que tu improvises, je veux que tu gardes l'énergie du mec qui, à l'intérieur, est gonflé de sentiments, mais qui peut pas trop les exprimer. Mmh. » Alors que c'est un truc que Gondry encourage auprès de tous ses acteurs. Il a encouragé tout le reste du cast à le faire. Et donc, ils sont tous éclatés à faire des séances d'improvisation. Quand il y a Kirsten Dunst qui saute en culotte sur le lit, bah, ça, c'était improvisé.
Oui.
Et lui, il avait pour ordre de ne pas improviser. Bah, en plus, c'est son cheval de bataille. Lui, dès qu'il peut, il le fait.
Oui.
Et il était contraint par Gondry de rester très intérieur.
Exactement. Tout dans la retenue.
Ken Winslet, bon, bah... J'ai envie de dire Madame Titanic, mais c'est tellement plus que ça.
Oh là oui, ça va... Elle fait une performance, quoi. C'est vraiment...
Alors, gros avantage, c'est que c'est des performances où tu te dis pas « Waouh, quelle performance !» j'oublie assez facilement qu'il s'agit de Jim Carrey, Kate Winslet et le reste. Oui. Je trouve qu'ils sont... tout est naturel. C'est d'un naturalisme assez confondant, même s'il y a du fantastique, tout est crédible.
Exactement. On peut pas du tout dire que c'est surjoué, malgré le fait qu'elle soit complètement déjantée. Mais effectivement, il y a un côté... Mais je crois qu'ils avaient vécu ensemble des choses avant de tourner. Enfin, ils avaient une réelle cohésion, en fait, avant de jouer, parce qu'ils ne se connaissaient pas forcément. Et ouais. Ça les a vraiment rapprochés. Enfin, ils ont vécu quelque chose avant de vivre le truc. Et c'est d'un naturel et d'une sincérité, en fait. C'est ça qui plaît, je pense.
Elle est vraiment chouette. Elle est complètement investie dans le rôle et ça se sent. Ensuite, on a Mark Ruffalo.
Oui.
Pour beaucoup, c'est le Hulk des Avengers.
Ouais.
Acteur que j'adore, qu'on a vu aussi dans pas mal de trucs. C'est plus que Hulk. On a Kirsten Dunst, qui Mary Jane chez Spider-Man. Il y a pas mal de super-héros, en fait, là-dedans.
C'est vrai.
Elijah Wood.
Ouais.
Elijah Wood, Frodon dans Le Seigneur des
Anneaux. Bien sûr.
Et tout ça, c'était dans la période où leur carrière éclatait et tout ça.
Oui.
Je parle de Kirsten Dunst, Ruffalo, Elijah Wood. Il y avait eu Titanic avant. Mm-hmm. Les Avengers venaient d'arriver. Elijah Wood, il était à cheval sur deux épisodes du Seigneur des Anneaux.
Oui.
Donc tout ça est arrivé en même temps, quoi. Il y a ce film-là qui est hors tout contexte de ce qu'ils ont l'habitude de faire.
Exactement. Ça sort du contexte de leurs habitudes, quoi.
Et c'est très rafraîchissant. Moi, je trouve ça vraiment agréable.
Oui, parce que au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a le côté hyper graphique, hyper artistique, le fait d'avoir une histoire d'amour. On pourrait se dire ok, ça peut être d'une banalité totale, mais là il y a le rythme du film, les flashbacks, l'espèce de conscient d'inconscient, le rêve éveillé, le côté hyper théâtral, enfin. On est basculé comme ça, en fait, on s'ennuie pas du tout une seconde. Il se passe toujours, c'est pas du tout mono, je sais pas comment on pourrait dire ça, mono...
Monocorde.
Ouais, monocorde.
C'est pas sur la même tonalité, il y a énormément de variantes.
Exactement.
À l'intérieur même du film. Et donc, oui, il y a un vrai parcours, une vraie histoire avec plein de rebondissements, avec les personnages... secondaires qui ont une vraie action sur le déroulé de l'histoire.
Exactement, qui ont toute leur importance.
Ouais, jusqu'à un final où il y en a notamment un qui dévoile le poteau rose et ça fout bien le bordel.
N'est-ce pas?
N'est-ce pas? On n'en dit pas trop sur l'histoire pour ceux qui l'auraient pas
oui,
vu.
Oui, oui.
C'est un film que mon fils avait vu bien avant moi et qui me tannait pour que je le voie.
Ouais.
Et je sais pas pourquoi, je repoussais le truc. Donc il a fallu sa pression plus la tienne pour que je le regarde.
Ouais.
Et pourtant je sais pas pourquoi, je n'ai pas plus envie que ça.
Non, mais il y a des fois on sait pas pourquoi,
Ouais, et tu sais quoi, je regrette pas, hein. Je me suis bien régalé dessus. En même temps, j'ai quelques critiques à lui
ouais.
À lui soumettre. Tu veux qu'on parle de la mise en scène peut-être d'abord?
Vas-y. Ouais.
Parce que c'est le gros point fort du film, en plus des acteurs et tout ça, mais pour moi, le jeu des acteurs fait partie de la mise en scène. Mmh. Je dirais, ils suivent une direction d'acteur. Le gros point fort du film, c'est une mise en scène de dingue. Et c'est ce qui lui nuit un peu pour moi,
ouais.
À mon sens. Je m'explique. Michel Gondry peut faire preuve d'inventivité dans la composition des plans, sur des idées de mise en scène, de décor, d'utilisation de l'environnement, qui est dingue. Mmh. Une scène où ils s'engueulent tous les deux au milieu d'une rue, mais on ne sait pas si on est dans un rêve, si c'est un souvenir. Et il y a des éléments de décor qui reviennent en même temps qu'ils se parlent, tout en avançant.
Oui.
Ce qui donne une espèce de vertige. Et en fait, j'étais là en disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait ! Oh là là !» Et je décrochais de l'intention des personnages, en fait.
Oui, t'étais attiré par la mise en scène, justement.
Ouais, j'étais plus intéressé par le factuel que par ce que ça raconte.
Par le fond, ouais.
Ouais. Et c'est le gros reproche que je fais au film, c'est que c'est génialement fait, mm-hmm. Et parfois au détriment de l'histoire.
Ouais, ouais, d'accord. Ouais, je comprends.
Je sais pas si tu comprends ce que je veux
dire. Si, tout à fait. C'est-à-dire qu'il a tellement voulu faire quelque chose de pas banal qu'il a peut-être effectivement surjoué dans la mise en scène. Et on peut oublier le fond du personnage, des personnages, tout à fait.
Ouais, ou même de ce qu'ils sont en train de se dire. Oui. Quoi. Il y a un plan où il sort d'une bibliothèque et en fait, en passant la porte, il rentre dans un appartement pour faire une transition. Oui. Et là, je fais « Waouh, quel plan génial ouais. !» Qu'est-ce qu'il disait déjà ?
Oui, c'est vrai.
Ouais, j'étais encore plus subjugué par le plan que par l'histoire.
Ouais, je suis d'accord. Bah oui, parce que c'est quelque chose qu'on voit, c'est pas commun, quoi, de voir ce genre de plan. Et...
Exactement. Et comme c'est pas fait en numérique, on se surprend à être complètement immergé dans le truc.
Exactement.
Et voilà, on ne dit pas quels effets spéciaux, on dit quel effet, tout
oui,
court.
Oui, exactement, parce que comme il le dit lui aussi, ce ne sont pas des effets spéciaux. Il a vraiment monté des fausses portes, dérobées pour... Tu rentres dans une pièce, tu arrives dans une autre. Il n'y a pas du tout de... C'est pas numérique, quoi. Comme je dis, c'est du cinéma de carton, quoi. Comme on peut...
Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Je pense qu'il y a un ou deux plans avec de la post. Je vois pas comment il aurait pu faire sans post-production.
Oui.
Avec des palissades qui disparaissent, qui réapparaissent. Et ça se trouve, il a le truc et moi je l'ai pas. Hein, qui sont assez incroyables. Alors, j'ai quand même suivi l'histoire hein, et j'ai été ému par quelques moments. Mais par rapport à ce que tu m'avais vendu et mon gamin aussi, j'ai dit oh bah tiens, j'ai pas eu le niveau d'émotion auquel je m'attendais. Alors, c'est peut-être parce que on me l'a trop survendu aussi par ailleurs.
Oui, c'est sûr.
Alors, c'est un défaut que j'ai tendance à pratiquer, c'est la survente des films. Et puis, il y a des gens qui me disent « Oh, c'était pas si fou, c'était bien, mais là, je m'attendais à plus, quand même.
Oui. »
Et j'ai bien compris les intentions du film et tout ça, hein. y a pas de souci. Mais je crois que j'en attendais trop et que j'ai été servi. Mm-hmm. Mais pas à hauteur de ce que je voulais.
Bah, tu vois, dans l'écume des jours... je trouve que le défaut dont tu parles, de la surmise en scène, eh ben, on l'a beaucoup trop dans l'écume des jours par rapport à Eternal. C'est-à-dire que c'est tout le temps des effets visuels. Et en fait, moi, je me perdais. Personnellement, j'étais presque lassée de voir le film parce qu'il y avait trop d'effets visuels et je n'arrivais pas à voir le fond. Ça me fatiguait, en fait. Tu vois ? Pour moi, il en avait trop usé dans l'écume des jours.
Ouais, moi, l'écume des jours, je vais reprocher plus à un problème de rythme. À la limite, il y a un film où il se calme dessus et il joue sur le côté très bricolage. C'est Soyez sympa, rembobiné.
Celui-là, je ne l'ai pas vu, non.
Alors, c'est très drôle, hein, c'est une comédie. Ouais. Où deux types ont pour un temps la gestion d'un vidéoclub. Alors, un vidéoclub VHS.
Oui. Hein.
Ils font une connerie, ils démagnétisent toutes les cassettes. Mm-hmm. Et pour réparer leur bêtise, ils refont les films avec des bouts de carton, des morceaux de tuyaux, des machins. Ils font leurs films eux-mêmes. Ouais. Donc, quand quelqu'un vient louer Ghostbusters, par exemple, ils refont Ghostbusters avec une petite caméra vidéo. Ouais. Et finalement, ils obtiennent un succès avec ça. Ils disent que ce sont les versions suédoises, mm-hmm. les versions suédées. Et du coup, ils ont un succès parce que, en fait, la folie qu'ils impriment dans leur bricolage marche très bien. Et ça fait vraiment écho avec ce que Gondry fait lui-même.
Oui, d'accord.
C'est très sympa à voir. Et c'est super bien joué en plus. Donc,
oui, c'est avec... comment il s'appelle
Jack Black.
Jack Black, merci.
Mos Def, Danny Glover, Mia Farrow, Sigourney Weaver.
Ouais, il y a du monde aussi, oui.
Il y avait du monde. Ouais. Toi, t'as une histoire avec ce film ou c'est vraiment t'es tombé dessus et t'étais... Comment tu l'as découvert ?
Moi, je suis allée le voir au ciné. Je suis allée voir au ciné en 2004, ouais. J'avais quel âge, je ne sais plus. Enfin, je faisais mes études justement dans le graphisme et j'avais ma carte UGC et je mangeais du ciné pas mal.
Ouais.
Et je suis allée voir ce film et en fait, il m'a accrochée par plein de choses. En plus, je suis vraiment dans le domaine de la couleur, des graphismes, des mises en page. Même si on ne peut pas parler de mise en page, y a quand même une intention de cadrage.
Oui, non, mais les plans sont pensés, réfléchis. Il y a une composition.
Exactement.
Irréfutable.
Exactement. Et donc, j'ai été... comme devant une œuvre d'art, j'ai été une éponge, comme si je regardais une œuvre d'art pendant tout le film, en fait. Ça m'a scotché. Je me suis intéressée à Gondry, à ce qu'ils faisaient. Enfin, voilà. En plus, j'adore les deux acteurs principaux. Ça aide beaucoup. J'ai adoré la musique. Enfin, j'ai trouvé... tout m'a plu, en fait. J'ai pas vu de défaut particulier. J'ai eu envie de le revoir. Je l'ai vu, revu. Enfin, ce que tu dis à un moment donné, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que, enfin, la fin est... Je ne spoil pas du tout. Des fins comme ça, faut que je le revoie. Enfin, j'ai pas...
Ouais, voilà. Ouais, ouais.
C'est en même temps, c'est bouleversant parce que ça fait aussi appel, comme je disais, conscient, inconscient. Tu te poses des questions sur ta vie personnelle. Ça te remet vachement de choses en question, en fait. Ça dépend dans quel état tu vas voir le film. Et peut-être au moment où je l'ai vu, voilà, j'avais une vingtaine d'années, donc... Bon, j'avais vu Titanic quelques années avant, bien sûr. Donc, du coup...
Ouais, mais on est moins concernés. Moi, je prenais vachement moins le bateau.
Oui, on est d'accord.
Mais quiconque a vécu une rupture douloureuse se sentira concerné. Ou alors, il a un cœur de pierre.
Oui.
Il y en a.
Ouais, ouais.
Ou il y en a qui n'ont jamais eu de rupture aussi. Ça peut arriver.
Oui. Non, mais ce film est oui, à la fois... Il est comme les acteurs, il est à la fois positif et en même temps hyper fataliste. Tu vois ce que je veux dire? C'est un film bipolaire, quoi.
Il pose la question par rapport à une très très grande douleur sentimentale, à supposer qu'on puisse le faire. Est-ce qu'il vaut mieux, si on pouvait le faire, oublier? Et ne pas avoir de douleur, mais pas de sentiments non plus. Et donc, pas de souvenir de ce qui était bien, ou vivre avec sa douleur. Et tout ce qui la précédait, c'est-à-dire des moments de grâce pure.
Ouais, voilà.
Question difficile. Alors, moi, ça m'est arrivé une fois. J'avais eu un gros chagrin amoureux, et puis, je sais plus, quelqu'un m'avait voulu me filer un témesta, un demi-témesta, ou je sais plus quoi. Et ça avait super bien marché. Une demi-journée, j'étais mais une endive. Et j'ai dit, non, je préfère encore souffrir que de vivre dans cet état-là. Ouais. Alors, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se soigner quand on va
non,
pas
non,
bien.
Non, bien sûr.
C'est pas ça du tout. Mais c'était sur le moment, j'ai dit, non.
Ouais.
Pas pour moi. Voilà, je vais encaisser le coup et puis ça va passer. Et puis ça, c'est passé. Hein.
Voilà, c'était...
Ouais. Quiconque a eu un dépit amoureux peut comprendre le film très bien.
Exactement. Il y a un côté hyper optimiste aussi, je trouve, enfin...
Oui, oui, bien sûr. Voilà. Sur la reconstruction, sur... Non, il y a quelque chose de très chouette. Bon, alors, la question, la vraie, est-ce que t'as chiolé comme une fille?
Eh ben, je chiale toujours à la fin. Je chiale pas du tout pendant, absolument pas.
Tu pourrais, hein.
Je pourrais, mais c'est pas une maladie, c'est pas... Il n'y a pas quelque chose de tragique pour que je me mette dans des états émotionnels intenses, mais c'est la fin. Oh, la fin, je suis une Madeleine. Hein. D'ailleurs, je vais regarder le générique, la télé sera éteinte, je vais continuer à y penser, quoi. Enfin, ça va me... voilà, c'est... Je sais pas comment expliquer.
Ok, bon bah écoute, très bien, et ça marche même au bout de X.
Ah oui, 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 ça marche toujours sur moi. Je me fais surprendre à chaque fois.
Très bien, non mais c'est bien, moi j'ai testé un film comme ça, il m'est arrivé le même truc, j'ai chialé exactement au même endroit.
Moi.
Sur quelques minutes après minuit, je me suis dit je me ferais pas avoir deux fois, et ben si.
Comme quoi on a cette sensibilité qui... Bah, y a des trucs qui nous touchent, d'autres qui vont moins nous toucher. Et c'est peut-être aussi des questions qu'on se pose nous. On va pas forcément voir des psys toute la journée, hein. Mais c'est peut-être des faiblesses qu'on a, des faiblesses et qui nous touchent.
Non, c'est pas des faiblesses.
Enfin, des faiblesses. Non, tout, pas des faiblesses, mais.
Ah non, pour moi c'est des forces. L'empathie est une force pour moi. C'est pas du tout. C'est pas du tout quelque chose de négatif. Et si un film arrive à me faire pleurer ou à me faire peur ou à me faire rire, je te le dis, bon bah ça marche encore. Ah moi je vois pas ça du tout comme. Comme quelque chose qui pourrait être digne de... Oh, bah, je vois plus mes mots non plus, moi.
Je voulais pas forcément...
Qui pourrait être répréhensible.
Pas forcément faiblesse.
Qui pourrait être négatif.
Mais une faille, c'est-à-dire que tu as une sensibilité. Une sensibilité sur un point précis. Alors, c'est pas une faiblesse, mais une émotion particulière qui va te toucher, puis peut-être que quelqu'un d'autre, ça va rien lui faire à ce moment-là, quoi.
Allez, c'est le début d'année, je fais une petite citation. Baudelaire disait « Ne vous moquez jamais de la sensibilité de chacun ni de personne, c'est son génie. Mm. » Et voilà.
Et voilà.
Bim, je pose ça là. bon, tout ça c'est bien mignon, mais revenons au concret, au dur, au physique. Revenons au DVD.
Yes.
Tu l'as en DVD, en Blu-ray ?
Je l'ai en DVD.
Ouais, bah moi aussi. Moi j'ai un simple DVD, je sais pas s'il existe 50 versions.
Je crois qu'on a le même. Hein. Ouais.
Ouais. Avec donc le film. Mm. Donc VO/VF. VF, c'est Kurt Hill qui double Jim Carrey. J'ai regardé en VF.
Oui.
Parce que je voulais profiter pleinement de l'image. Mm-hmm. Et la VF est plutôt bien faite. Il n'y a pas de souci oui. là-dessus. Et j'ai un making-of et une interview making-of à côté.
Oui.
C'est ça. Et des scènes coupées. Je comprends qu'elles aient été coupées, mais où c'est juste des petits bouts en plus par rapport à une scène.
Ouais.
Est-ce que j'oublie quelque chose Non, une bande-annonce.
Une bande-annonce, ouais.
Voilà. T'as tout regardé ?
Alors, non, j'ai pas tout regardé. J'ai pas regardé les scènes coupées. J'ai regardé une...
Ouais, c'est pas
non,
ouf.
Non, bah oui. Et puis, c'est vrai qu'au départ, je les avais pas regardées. C'est quand tu m'as dit que t'avais vu les bonus, j'ai dit, tiens, je vais m'intéresser parce que c'est vrai que moi, je vois le film et après, j'ai du mal à voir l'envers du décor. C'est-à-dire, je me dis, après, je suis plus dedans, quoi. Enfin...
Ouais, alors ça dépend
ça
des
dépend.
Films.
Tu peux les...
ouais. Moi, je le fais directement dans la foulée parce que je suis dans le mood, où je me dis, hop, non, je vais le laisser maturer et puis je vais me le faire le lendemain, le surlendemain. J'essaye de pas être trop éloigné quand même.
Oui.
Mais bon, moi, en général, je les mange tous. Hein. Alors, des fois, j'ai des ratés.
Mais du
plus tard, on va voir, j'ai un raté.
Mais du coup, là, j'ai appris quelques. J'ai regardé le début. Du film avec Kaufman et commenté par Kaufman et Gondry tout le film. Alors je suis allée jusqu'au générique parce qu'après je me suis dit
il y a un commentaire audio.
Il y a un commentaire audio, ouais.
Ouais, je l'ai pas fait, tu vois. Par
voilà,
exemple,
ça j'ai fait le début j'ai appris deux trucs. J'ai appris deux trucs où je me suis fait avoir comme un bleu si j'avais pas vu ce commentaire audio. Donc dans le début du film, hein, puisque là j'ai pas regardé jusqu'au bout, et j'ai appris deux trucs, enfin un truc notamment où je me suis fait complètement avoir. D'ailleurs dans le commentaire audio, il dit bah là il y a confusion là-dessus. Je pense que tout le monde a la confusion et en fait t'as l'explication que c'est pas du tout ce qu'on pense, quoi.
D'accord.
Donc je sais pas si je le dis là à ce moment-là ou.
Oh bah vas-y, ou ça spoile pas la fin.
Non pas du tout. Ben en fait, donc au départ, on voit Joël dans la voiture. Au moment du générique, il y a le gars de la Kuna qui lui tape au carreau.
Ouais.
Voilà. Et on voit Jim Carrey partir en pleurant dans sa voiture. Et il jette une cassette audio par la fenêtre.
Une chose qu'on retrouve à la fin.
Et du coup, on se dit, ah ben ça doit être la cassette, la fameuse cassette de la fin. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est une cassette où il y avait un morceau de musique qu'ils écoutaient tous les deux quand ils étaient amoureux tous les deux. Et comme il vient d'apprendre que Clémentine a effacé toute leur histoire, bah, il balance la cassette audio juste de leur chanson préférée, quoi. Voilà. Et moi, je pensais que c'était la cassette de la fin.
Mais en fait, le film joue beaucoup sur toutes les temporalités.
Oui, 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 énormément. Et en fait, le repère génial qu'a Gondry dans ce film, le repère temporel qu'on a, c'est la couleur des cheveux de Clémentine. C'est-à-dire qu'au début du film, elle a les cheveux bleus. Et en fait, on s'aperçoit que c'est finalement la fin. C'est la fin de leur histoire quand elle a les cheveux bleus. Donc, début. Et après, elle passe par le... orange.
Orange.
Après, elle passe...
Il y a plusieurs couleurs.
Ouais, elle en a quatre. Elle a bleu, orange, rouge et vert. Et vert, c'est quand ils se rencontrent. Mais ça, on le sait, bien sûr, à la fin, forcément, puisque ça retarde. Et en fait, des fois, on voit du rouge, du bleu. Et on arrive à se repérer au niveau de là où on est dans la réalité, par sa couleur de cheveux. Et ça, je trouve ça pas mal. C'est à la fois graphique et en plus, bon, pour une spécialiste de la couleur, bleu-orange, c'est des couleurs complémentaires, et rouge et vert également. Donc c'est assez marrant d'avoir choisi ces couleurs qui sont complémentaires pour un couple qui finalement l'est. Je trouve que c'était bien vu. Elle n'a pas fait rose ou jaune, qui ne sont pas des couleurs complémentaires, par exemple. Et je trouvais ça bien vu aussi. Il y a vraiment une recherche artistique jusqu'au bout, quoi.
Je m'étais demandé dans Scott Pilgrim, c'était une référence à Eternal Sunshine, parce que tu as l'héroïne, Mary-Elizabeth Winstead, qui a aussi une histoire avec une mèche de couleurs qui change plusieurs fois dans le
D'accord.
film.
D'accord, ouais.
Je ne sais pas si c'est en relation.
Peut-être.
Au fait, tu sais qui avait été pressenti à l'origine pour jouer le rôle des deux héros ?
Alors, ça, non. Non.
C'était Nicolas Cage qui était pressenti.
Ah ouais ? Oui, d'accord.
Ok. Et Björk, qui devait jouer Clémentine. Et je dis pourquoi pas. Mais...
Ouais, je sais pas. Enfin, oui, c'est vrai que Björk, moi, je ne l'ai jamais vu jouer. Hein. Je ne sais pas du tout.
En fait... Elle a dit non parce qu'elle sortait du film de Lars von Trier, Dancer in the Dark, qui a été rincé. Elle a dit non, je refais pas de film tout de suite.
Tu m'étonnes.
Donc, Nick Cage, je crois que c'était pas possible non plus, il pouvait pas. Et puis Jim Carrey voulait vraiment, vraiment le faire.
Ah oui, mais je trouve que Jim Carrey, ça lui, c'était pour lui, quoi. Enfin, il avait. Ah
ouais. Ouais, complètement.
Il est parfait dedans, quoi. Enfin, moi, je voyais pas quelqu'un d'autre, tu vois. Pour le coup, des fois. Il y en a qui sont pressentis, c'est d'autres, tu dis ah, bah, peut-être que ça aurait mieux donné avec un autre. Björk et Nicolas Cage, je sais pas s'il y aurait eu cette complicité. Enfin, je sais pas. Ils étaient. Non.
Non, ça marche très bien, ne changez rien. Ouais. Mais c'est marrant de le savoir.
Oui, c'est clair.
Il y a un petit making-of de 20 minutes qui est pas mal, qui est pas ouf. Alors que l'autre truc, je trouve plus intéressant, c'est une conversation. Entre Jim Carrey et Gondry.
Oui.
Ils parlent de leur collaboration et je trouve ça passionnant. Et ça fait en même temps making-of parce qu'ils expliquent certaines scènes du film.
Exactement, ouais.
Avec des images. Il y a toute une scène où Jim Carrey joue lui enfant, comme s'il avait la taille d'un enfant. Et en fait, c'est le décor qui est complètement dingue, qui joue sur des perspectives.
C'est ouf ça, ouais.
Pour qu'on y croit. C'est incroyable comment ça marche. Ouais. Voilà, on voit que Gondry maîtrise l'image, les perspectives, les profondeurs de champ, tout ça. C'est sa mère le lave dans l'évier comme si c'était un bébé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On construit un évier.
Exactement.
Géant.
Non, c'est...
Avec des faux bras, des choses, c'est absolument délirant.
D'ailleurs, il disait même qu'elle s'était vraiment noyée. Enfin, elle avait vraiment bu de l'eau, quoi. Enfin, elle avait bu la tasse.
Kate Winslet, ouais. Parce qu'ils tournaient ça un peu à l'arrache, ils avaient des très très grosses journées.
Oui.
Les deux disent même qu'ils s'étaient un peu pris le bec deux trois fois, quoi. Ils n'étaient pas d'accord parce que Gondry. Alors Gondry, c'est le Frenchie à Hollywood qui a l'air mais tout gentil. Il a un accent incroyable.
Énorme.
de Frenchie, quoi. Et il fait pas. Énormément d'efforts pour l'enlever d'ailleurs.
Non.
Il se fait comprendre, mais ça doit être un bosseur fou, je pense.
Ouais, je pense qu'il est, acharné et passionné, quoi. Enfin, un peu. Ça se sent, quoi.
Et ils ont un échange aussi, parce qu'il y a une scène où les deux persos voient un défilé d'éléphants dans les rues de New York.
Oui.
Et c'était pas prévu. Et c'est lors du tour. Ils étaient en train de tourner dans le métro ou dans un truc à côté. Et Gondry voit ça et il dit à tout le monde on prend les caméras, on fait ça à l'arrache, on va voir, il y a des éléphants qui défilent dans la rue. Gondry, il peut pas rater ça, quoi.
C'est clair, c'est de l'or, quoi, pour lui.
C'est de l'or en barre. Et c'est une super scène en plus, ça marche très très bien.
Oui, c'est presque absurde. Moi, ça m'a fait penser à un roman de Queneau qui s'appelle Les fleurs bleues.
Putain, mais on est hyper littéraire ce soir.
Et en fait,
c'est un truc de dingue.
Et en fait, bon, c'est plus des époques différentes où il y a à un moment donné confusion entre le rêve et la réalité. Donc ça fait appel un peu à des. Là, c'est plus dans les époques différentes. C'est un peu un retour vers le futur, mais avec des calembours. Enfin, c'est très très littéraire. Moi, j'avais étudié ça en littéraire, justement, il y a certaines parties qui sont presque absurdes. Et justement, cette scène avec les éléphants, c'est un peu de l'absurde. C'est un peu... Mais ça marche. Ça marche, ça se fond bien, quoi. T'es pas surpris, quoi, au final.
Non, non, ça, tout marche bien. Et quand la réalité est plus absurde que ton script, bah, tu te jettes dessus, quoi. Bon, je vais pas tout dévoiler ce qu'ils disent. Je laisse aux auditeurs le soin de se procurer ça. On se le trouve facilement... Enfin, facilement. On le trouve dans les Zcash et compagnie. Vous le trouverez pas à 30 centimes, mais à 3-4 euros. Et puis, l'achat vaut vraiment le coup. Même si j'ai été mal poli et que j'ai dit que c'était pas l'effet escompté sur moi. C'est un film qui fait plutôt l'unanimité. Hein.
Oui, et puis, il a quoi ? Il a presque 20 ans ? Il vieillit pas, quoi.
Ouais.
Enfin, il a un côté.
Non, ça n'a pas pris une ride.
Non.
Et puis le côté bricolage marche vachement bien.
Très
quoi.
Bien.
Comme il n'y a pas de numérique.
C'est ça.
Ça passe très bien.
Exactement.
Si vous voulez du Gondry avec du numérique, regardez ce film débile, ultra drôle, qui est The Green Hornet, qui est une histoire de super-héros. C'est un remake d'une série des années 60 avec Bruce Lee à l'origine. Sauf que le super-héros est joué par Seth Rogen, et il est con comme une pelle. Et il y a des effets à la Gondry dedans, il y a des idées. C'est pas du tout le même trip que La Science des Rêves ou Eternal Sunshine. Mais tout le monde dit que ce film est une merde. Moi, il me fait plutôt rire, et j'ai revu deux, trois fois, toujours avec un petit sourire en coin. C'est pas désagréable du tout. Il y a Christoph Waltz en plus dedans, qui est en roue libre. Et Cameron Diaz, donc... Que du beau monde.
Voilà, bah, ça m'a donné envie de le voir aussi, alors.
Mais c'est con, hein. Tu peux mettre les gamins devant, il n'y a pas de problème. Sauf s'il y a des gros mots.
Ah oui, d'accord, ouais. Bon.
Mais bon, moi, le petit, il aime bien.
Ok.
Juste, il sait qu'il n'a pas le droit de les dire.
Oui, voilà, tant que c'est compris, pas de problème.
Tant que c'est pigé. Et ben voilà, t'avais des choses à dire en plus ou pas ? Tu tenais à dévoiler.
Moi, je crois que j'ai fait le tour hein, de...
Eh ben, entre... impeccable.
J'ai fait le tour de tout ce que j'aimais là-dedans.
Eh ben, super. Eh ben, on va passer aux bonnes annonces.
Yes.
Il y a un problème avec les manouches ou les gitans.
Qu'est-ce que tu fous, le poulet ? Il va te faire voir.
On comprend pas grand-chose à ce qu'il raconte.
Ah, t'es Tommy ? T'es là par la caravane ?
Monsieur O'Neill.
Ah, arrête ta connerie. Appelle-moi Mickey.
Il bouffe les mots. Il parle mal.
Ça va bien ?
Ouais, t'en es dos et puis ça a beaucoup ici, tu sais.
Bref. Le plus souvent, c'est du charabia.
Oh putain, l'enculé. Regardez la taille de ce type. Et tu mesures quoi Hey, môme, combien qu'il fait?
C'est une montagne, c'est sûr.
Emma, ah, comment est ma star, celui-là? Il fait de la boxe, hein, de temps en temps, hein. Tout la boxe, là.
Arrête tes bêtises, Mickey. Ils veulent pas boire un verre?
Oh, je tuerais bien pour une bière.
Y a personne qui tuera personne ici, c'est moi qui le dis.
Les bandes annonces, les films qu'on a vus récemment en support physique. Je commence avec Paiement Cash. Alors ça, c'est un film que j'ai vu dans un solder. Et je vois ce truc-là, je vois Roy Scheider dessus. Années 80, je dis bon, vas-y, je vois pas ce que c'est, mais ça me va bien. Le titre me disait vaguement quelque chose. C'est un film de John Frankenheimer, un polar. Et puis c'est un film canon. Donc c'est de la série B, bien grasse. Assez craspoc, d'après un roman de Elmore Leonard, l'auteur de polar américain, toujours avec des gueules cassées, des situations un peu bizarres. Et c'est un film de John Frankenheimer, réalisateur notamment de French Connection 2, et qui est un film qui est plutôt pas mal du tout. C'est vraiment de la série B années 80, pur jus, mais vraiment pur jus. Et j'ai pris un bon pied pour les acteurs, surtout Roy Scheider qui est un acteur que je vénère. Et il y a Vanity qui était une protégée notamment du chanteur Prince. Et ça passe très très bien. On le trouve pas partout, c'est pas évident. Et j'ai pris un bon petit pied. Sur le DVD, pas de bonus, une copie moyenne, mais c'est la seule qui existe. Et j'étais bien content de l'avoir. À toi.
Alors, moi, je vais vous parler de Snatch. Donc, Snatch, film de 2000 de Guy Ritchie. Histoire de vol de cailloux, un gros diamant, sur fond de match de boxe clandestine avec des gitans, une histoire improbable, mais bon, moi qui m'a fait mourir de rire. Donc voilà, ce petite bande-annonce spéciale pour celui-là.
Ouais, bah, film de Guy Ritchie qui est peut-être son meilleur pour moi. Il y a quand même Jason Statham à ses débuts.
Ouais.
Brad Pitt en gitan, qui est
mais incroyable. Incroyable.
Avec une VF très réussie pour les Gitans.
Oui.
Alors qu'en général, la VO est bien meilleure. Et là, la VF est très réussie. C'est hyper british. C'est vraiment chouette. C'est un que je me remets régulièrement.
Ah oui, mais c'est, ouais. Voilà, c'est pour le... Pour se détendre, ce film, il est, il donne la pêche, je trouve.
Ouais. BO incroyable.
Oui.
BO incroyable. Mmh. Et non, c'est vraiment, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, allez-y, c'est du velours,
ah,
c'est
oui.
De la bonne grosse comédie, mais fine en plus. Et Jason Statham joue très bien dedans. Non, ça marche très bien.
Ça marche super.
J'enchaîne sur les recommandations du podcast Capture Mag qui avait dit oh c'était pas si mal et tout. Je me suis rematé Le Corrupteur de James Foley avec Chow Yun-fat et Mark Wahlberg, un film sur les triades chinoises et la corruption qui s'opère dans la police. Je l'avais déjà vu à sa sortie et j'avais un vague souvenir d'un truc un peu plan-plan et moyen. L'intrigue, je m'en rappelais plus, donc je me suis dit, allez, relance. En plus, c'était recommandé par Capture Mag. Et ben, c'est. Alors, voyeur, c'est très plan-plan et moyen. Donc, ça n'a pas bougé. C'est pas désagréable, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a plein de bonus, mais comme je me suis bien fait chier, ben, je les ai pas regardés. Et James Foley, il a pas fait grand-chose. Ses dernières réalisations, c'est 50 nuances de plus clair et 50 nuances plus sombres. C'est vous dire le
ah oui,
du gars.
Oui.
Ouais, non, faut arrêter de faire du cinéma, monsieur.
Stop.
Il fait ce qu'il veut, hein, je m'en fous. Mais voilà, donc Le Corrupteur, c'est pas désagréable, mais c'est complètement dispensable. Voilà, à toi.
Alors moi, j'ai Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Donc ça, c'est un film de 2012, ouais. Avec d'une réalisatrice, Lorraine Scafaria. Et donc là, on est avec Steve Carell et Keira Knightley. Et en fait, ouais. Donc là, c'est un petit peu, on va dire, science-fiction. Donc on est bien sûr sur la Terre. C'est l'annonce de la fin du monde. Et donc, qui est prévu dans 3 semaines. Toute la planète va s'éteindre. Et la femme de Steve Carell, donc qui s'appelle Dodge dans le film, le quitte et il se retrouve finalement tout seul à rester 3 semaines à terminer sa vie, quoi. Et donc il va forcément faire une rencontre. Quand je le raconte, c'est assez c'est un film qui m'a bouleversée. Bon, c'est encore une histoire d'amour, mais qui n'était pas prévue pour être une histoire d'amour. Et il y a cette relation entre les deux personnages où tu sais qu'il y a une fin de toute façon.
Ouais.
Et ce film, il est particulier. Il est particulier, peut-être parce que c'est une réalisatrice et que c'est pas souvent aussi. Alors il y a un regard peut-être différent, une approche différente. Moi, ça m'a beaucoup plu. Donc, il ressemble pas aux ondes fin du monde. C'est pas un blockbuster. C'est pas des trucs qui pètent de partout. Enfin voilà, c'est pas mal.
Ok, très bien. J'étais complètement passé à côté. Super. Ça me fait une reco en plus. Ouais. À mettre dans le backlog. Termine ma sélection. C'était Noël. J'ai commandé le Blu-ray de Nope qui venait de sortir.
Mm-hmm.
Je l'ai eu.
Ouais.
Et ben la copie est très très bien. Alors, je l'avais vu au cinéma. J'étais sorti mi figue mi raisin. Mais le film me restait vraiment en tête. Je l'ai revu et non, c'est vraiment bien en fait.
Ouais.
C'est vraiment très cool. J'adore. C'est du Jordan Peele pur jus, quoi. Ça va jouer avec les interprétations que tu veux faire, les interprétations qu'il fait, et puis il te laisse le puzzle et dire, hey, pioche ce que t'as envie, les refs, tu les interprètes comme tu veux, moi j'en ai mis plein. Et voilà, vraiment une construction, comme beaucoup l'ont dit après, je m'en étais pas rendu compte, mais finalement c'est vrai. C'est un peu la construction des Dents de la Mer au niveau deux chapitres. On constate et on agit en phase 2. Et il y a la même tension que dans Jaws. Et ben je me suis fait les deux tiers des bonus et un super super making of en plusieurs parties. On est vraiment sur le plateau et les efforts qui ont été faits sur construction des décors, la maison principale et le parc d'attractions, c'est un boulot de dingue.
Ouais.
Et c'est très bien fait. Moi j'aime beaucoup Jordan Peele et j'ai revu Nope à la hausse que j'ai trouvé très très bien au finish. Et à chaque fois que je vois un Jordan Peele, ou que j'en revois un, je dis finalement c'est celui-là le meilleur, et il suffit que j'en regarde un autre après en disant non, mais en fait c'est celui-là.
C'est toujours le dernier.
C'est toujours le dernier que j'ai vu que je trouve le mieux, et jusqu'à ce que je me redise, je vais quand même regarder le précédent ou le suivant, et non, c'est à chaque fois je suis soufflé par ce qu'il fait, et ouais, on peut le critiquer sur plein de choses. N'empêche que ce qu'il propose aujourd'hui, je trouve que ça remet un coup de boost à pas mal de critiques sur le genre fantastique, et je trouve ça très très bien.
Je me le notais aussi.
Nope.
Ouais.
Tu avais vu Get Out ou Us?
Non.
Oh non, mais faut que tu absolument que tu te...
Attends, je me note Get Out.
Get Out. Et... toi qui aimes tout ce qui est graphique, regarde Us,
ouais.
Qui est très très graphique. Okay. Et Nope aussi, qui est très très graphique.
Ok, c'est noté.
Voilà. Tu couches les enfants. C'est pas qu'il y ait du gore, mais ça fait peur.
Ok.
Un peu. Tu vas nous clore cette session
avec Bienvenue à Gattaca.
Oh, un classique.
Ouais. Alors ça, je l'ai découvert en fait... bon, il est de 98, mais je l'ai découvert l'année dernière. Donc en fait, là, on est dans un futur proche.
On est même dans un futur dystopique. Hein.
C'est oui, parallèle. Complètement. Donc la société, en général, elle pratique l'eugénisme. Les gamètes des parents sont triés et sélectionnés pour concevoir des enfants parfaits. Et les entreprises, malgré l'interdiction, procèdent à des tests d'ADN pour sélectionner leurs employés les meilleurs. Et bien sûr, ceux qui sont nés naturellement, ils font des tâches subalternes. Et donc là, on est avec Uma Thurman. Merde, l'acteur, il s'appelle... c'est lequel ?
Il y a Ethan Hawke et Jude Law.
Exactement. Ethan Hawke et Jude Law. Et là, bon, on est pareil dans un univers un peu science-fiction, un peu médical. Enfin, c'est haletant, suspense. Enfin, j'ai adoré. J'aime bien aussi ces côtés un peu expérience, un peu le meilleur des mondes d'Huxley. On est un peu dans l'utopie.
Ah oui, on est dans.
Voilà.
Ouais, c'est orwellien. C'est,
complètement.
C'est tout ça. J'ai revu il n'y a pas longtemps aussi, sachant que je l'avais vu à l'époque de sa sortie. Et je me suis dit, j'espère que ça a bien vieilli. J'avais un gros doute. Et non, ça passe très bien.
Ça passe très bien. Très cool. Moi, je l'ai vu l'année dernière. Ça passe super. Ouais, effectivement.
Avec une Uma Thurman pré-Kill Bill. Et, non, c'était pas pré-Pulp Fiction. C'était à peu près en même temps.
Ouais.
C'était 2 ans après. Mais non, ça passe encore très, très bien.
Oui, le sujet c'est actuel, quoi. Enfin, il n'y a pas de vieillerie dedans. Enfin, ça marche, quoi.
Ouais, ouais. Un monde macroniste au poil.
Exactement.
Voilà. Super. Bon, voilà une belle petite sélection. On va passer à ce qu'il n'y a pas sur la rondelle, les choses qu'on a vues sur les plateformes.
Yes.
Au début du 21e siècle, l'évolution du genre humain atteint un tournant décisif. La sélection naturelle, processus selon lequel les plus forts, les plus intelligents et les plus rapides se reproduisent en plus grand nombre, théorie qui a longtemps fait appel aux instincts les plus nobles de l'homme, céda peu à peu la place à de nouvelles icônes. À l'époque, les romans de science-fiction prophétisaient un futur plus civilisé où les terriens seraient de plus en plus intelligents. Mais plus le temps passait et plus la tendance semblait s'inverser pour aboutir à l'abrutissement de notre espèce. Comment en étions-nous arrivés là ? L'évolution ne gratifie pas nécessairement l'intelligence. En l'absence de prédateurs au sein du troupeau, c'est la surproductivité de certaines classes qui fut récompensée, laissant les plus intelligents espèces en voie d'extinction sur le bord du chemin.
Les plateformes SVOD sont à la cinématographie ce que le verre est à moutarde est à l'œnologie. On peut l'utiliser, mais on y perd beaucoup. Néanmoins, on a vu un ou deux trucs pendant les fêtes, ou récemment, et on va voir si ce sont des bons crus. Tu commences.
Alors, je commence avec Idiocratie, Planète Stupide. Donc, un petit peu le sous-titre.
Ah, je l'ai toujours pas vu.
Ah !
Je l'ai toujours pas vu. Mais vas-y, oui. Au contraire, Vends-le-moi. Et c'est, je crois que c'est pré-vendu.
Ouais, ouais. Il est... faut le regarder dans pas trop longtemps, je dirais, d'ailleurs. Tu verras pourquoi quand tu le verras.
Ouais, c'est un peu comme Bienvenue à Gattaca, quoi. Ça a des résonances aujourd'hui.
Oui, il est vachement flagrant. D'actualité, au final.
Ouais.
Donc, c'est un film de 2006 de Mike Judge. Donc, on a un gars qui s'appelle Joey Bowers, qui est l'Américain moyen, on va dire, au niveau du QI, quoi. Et il est recruté par le Pentagone pour exécuter un programme top secret d'hibernation. Malheureusement, ils vont l'oublier. Et il va se réveiller 5 siècles plus tard. Et dans une société qui est devenue complètement stupide. Et où lui, qui était 5 siècles auparavant le plus idiot, se retrouve le plus intelligent. Voilà.
Ouais.
Et ce film, il est assez déconcertant, on va dire. Déconcertant par sa réalité, par son anticipation au final. Il y a beaucoup j'ai vu beaucoup de références à Soleil Vert.
Ouais.
Le film dystopique, vraiment. Pour moi, la définition du film dystopique, quoi, Soleil Vert.
Ah bah, Soleil Vert, c'était un film de science-fiction quand il a été tourné. Mmh. Aujourd'hui, on dirait un reportage sur.
Aujourd'hui, quoi.
Au journal télé.
C'est ça, on est d'accord. Voilà. En 73, c'était. Soleil Vert, c'était 73. Et,
ouais.
Ce film, il est. Il n'y a pas de.
Visionnaire.
Ouais, voilà, visionnaire.
Ouais, sauf que c'était pas. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, hein, c'était pas. Ce qu'il prédit, c'est pas arrivé 5 siècles plus tard, mais 15 ans après.
Quoi. Exactement. En fait, c'était aujourd'hui, quoi.
C'était aujourd'hui, où le niveau général a baissé. Il y a juste, je sais que dedans, il y a un acteur que j'aime bien parce qu'il est dans une série que j'adore, qui est Terry Crews,
oui.
Qui est une montagne de muscles black, type incroyable, et qui joue dans Brooklyn Nine-Nine,
oui.
Qui est un mec qui a énormément d'humour sur lui-même et sur sa stature. Je crois que c'est un ancien catcheur ou footballeur américain, je ne sais plus. Mais c'est une montagne et ce type me fait beaucoup rire et j'aime beaucoup Terry Crews.
Bah c'est à la fois ce film est à la fois drôle et à la fois tu ris jaune quoi. Ouais, c'est plutôt ça.
Ouais, c'est un rire que j'aime bien.
Mais faut le voir, faut le voir.
Ouais ouais, non mais c'est prévu, c'est prévu. Et tu l'as vu sur une plateforme ?
Oui, je l'ai vu sur Amazon.
Oh bah s'il est sur Amazon, j'y vais demain. Très bien.
Voilà.
Très bien. Moi, de mon côté, comme c'était Noël, il y a encore peu, et que j'adore Mel Gibson, j'ai regardé un truc avec Mel Gibson et qui parle de Père Noël, j'ai regardé Fat Man.
Ouais.
Alors, c'est l'histoire du Père Noël, qui en fait, qui est joué par Mel Gibson. Mm-hmm. Il a donné un morceau de charbon à un enfant qui n'a pas été très sage, sauf que cet enfant est très très riche, et qu'il a embauché un tueur, qui est joué par Walton Goggins, pour tuer le Père Noël. En plus de ça, le Père Noël a des problèmes parce que voilà, il a des frais. Les lutins sont super sympas, mais il faut les payer.
Mm-hmm.
C'est pas mal, c'est pas fou.
Ouais.
Juste, bah, j'étais super content de retrouver Mel Gibson.
Oui.
On le voit pas assez. Et ça, une des dernières prestations de son doubleur officiel en France, qui était Jacques Frantz, qui est décédé depuis il y a 2 ou 3 ans.
Mm-hmm.
Pas désagréable, mais bon, c'est complètement indispensable aussi. J'ai de temps en temps des échecs dans Planet of the Tapes, des ratés, des trucs où tu dis, bon, bah voilà, j'ai essayé, ça marche pas.
Bah ouais.
Il faut essayer.
Mais bien sûr, choses. Bien sûr. On est obligé d'avoir un éventail. Hein.
Voilà, et ça te permet, quand tu tombes sur un bon truc après, de dire, ah, c'est vraiment bien.
Voilà.
C'est comme dans Idiocratie, tout est question de nivellement.
Ça met la balance.
Qui était con hier peut paraître brillant le lendemain.
Exactement.
En fonction de ce que tu regardes
entre-temps,
après,
voilà.
Voilà, bon bah écoute, là encore, des petites recos pour ceux qui, même s'ils auront en enfer, ne louent pas le support physique, mais des films sur les plateformes. Mm. Et bah voilà, on a fait le tour. Écoute, le mieux c'est que je te propose qu'on se fasse un petit bisou,
ouais.
On va se dire au revoir, mais avant on va se faire une petite reco.
Ok,
okay.
Ouais.
Moi, qui c'est le gros nounou, ça se fout d'une fufu, yo. Et qui c'est qui va faire un gros câlin dans le grand dodo?
Qui c'est qui fait gros pampon à la poporte?
Madame Sixties, maîtresse Sixties, merci encore de ta venue. Je suis super content d'avoir un bout de nana, un bout de bonne femme derrière un micro. Ça me change de la testostérone en barre.
Merci à toi, Mère Green.
Ah ben non, mais c'est un vrai plaisir. Tu reviens quand tu veux.
Merci.
Déjà, est-ce que tu as une petite reco avant qu'on se quitte?
Oui, alors je me suis dit, comme on parlait à l'origine de Eternal Sunshine, moi il y a une actrice que j'aime beaucoup, c'est Kirsten Dunst. Et Marocco, alors c'est un film qui s'appelle Upside Down.
Ouais, je vois.
Tu vois ?
Je vois à peu près.
Voilà, qui est sorti en 2013 de Juan Solanas. Donc c'est de la romance SF.
Ouais.
C'est voilà, on est dans un univers extraordinaire où vit un jeune homme ordinaire, Adam, et qui tente de joindre les deux bouts dans un monde détruit par la guerre. Et il lutte pour avancer dans sa vie, et il est hanté par par le souvenir d'une belle jeune fille. Que là, j'en dis pas plus parce que c'est une histoire d'amour, mais encore une fois, il y a un côté hyper science-fiction. Là, pour le coup, il y a des effets spéciaux. C'est deux mondes à la fois concrets, à la fois un peu dans le rêve, un peu dans l'irréel. Enfin, il y a un doux mélange. C'est hyper. Quand j'ai découvert ce film, pareil, ça m'a un peu bouleversée. C'est bien joué. On n'en a pas tant parlé que ça, je trouve.
Non, c'était passé un peu sous les radars.
Ouais, ouais, ouais. Et du coup, une belle surprise. Voilà. C'était pour rester un petit peu dans l'esprit romance, mais toujours pas raconté de façon trop banale, avec un côté un peu science-fiction que j'aime, que j'affectionne.
Super. De mon côté, comme j'ai déjà dit, j'adore les roguelites et je me suis fini Rogue Legacy 2 avec une facilité. C'est du roguelite, hein, donc il a fallu insister, mais j'y suis arrivé. Donc j'ai rouillé Rogue Legacy 2, et donc il me fallait un autre roguelite, et je suis tombé sur Crown Trick, qui est un roguelite toujours sur le même principe, c'est-à-dire on meurt, mais on gagne des petits trucs qui fait qu'on avance un peu plus loin à chaque fois. Sauf que là, c'est un roguelite au tour par tour, mais avec des tours très rapides. Un mouvement, un tour. Okay. Un mouvement, une action, un tour. Et ça va très vite, et c'est très très bien. Et j'ai pas fini, j'en suis encore au début, mais voilà, les choix tactiques en fonction des armes ou des sorts qu'on va prendre sont assez infinis, et comme dans les bons vieux jeux de rôle à l'ancienne, il y a beaucoup d'interactions entre, par exemple, si on balance une boule de feu sur une flaque, et ben ça va faire de la vapeur qui va avoir des effets sur l'environnement. Pareil pour l'huile, le poison, tout ça peut se mélanger et avoir des combinaisons très très intéressante comme c'était le cas notamment dans les JDR Divinity Original Sin, jeux sur lesquels j'ai passé des moments incroyables mais dans un autre style. Donc ça se joue très rapidement comme tout bon roguelite. On peut faire du rage quit, on revient au début du tableau et ça c'est toujours un plaisir de pas avoir à tous recogner.
Oui.
Vraiment très chouette. J'ai trouvé à 5€ sur Steam, mais bon, c'était les soldes, mais il doit être à moins de 10€ de toute façon. Donc, ça joue bien, ça prend pas de place et ça va vite.
Top.
Voilà, voilà. Bon bah écoute, on a quand même fait pas mal de citations de films, de bouquins, de jeux vidéo.
Ouais.
Je pense qu'on a été super large.
Complet.
Un épisode crêpe, œuf, jambon.
Les meilleurs.
Ouais, incomplet. Merci encore, Sixties, c'était super de t'avoir.
Bah, merci, Mère Green, c'était chouette, ouais.
Tu salueras une personne qu'on connaît, qu'on a en commun dans nos connaissances.
Oui.
Et lui dire de préparer les Minutes Branques pour février.
Ok, ça m'a. Je note aussi. Minutes Branques.
Une note, hein. Au cas où, si tu le croises, on sait pas.
Minutes Branques, février. Allez, oust.
Ouais. Allez, zou. Bon allez, merci encore.
Merci, Mère Green.
Et puis à une prochaine.
Une prochaine. Ciao. Bonne soirée. Salut.